Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous parlons de Baltus. Baltus, un artiste légendaire et qui divise parfois, un peintre. Je dirais un artiste religieusement peintre, tant la peinture, son histoire, sa matière, sa magie, fut pour lui un objet de dévotion et de ferveur insistante. Pourtant, son œuvre est relativement peu abondante. 300 peintures peut-être réalisées entre 1919 et 2001. On pourrait réduire son travail à une imagerie, des jeunes femmes nubiles représentées dans des positions ambiguës. Mais ce qui se joue dans ses œuvres est beaucoup plus complexe et engage le sens profond de l'art et de l'homme. Cette exploration, il le formule dans une lettre à sa première femme, parlant de son projet. « Je veux y mettre tout cela, tout ce qui est caché au fond de nous-mêmes, une image essentielle de l'être humain, dépouillée de la croûte épaisse et de la lâche hypocrisie. » Et pour en parler, pour parler de cela, à l'occasion de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Fondation Beyler à Bâle, je reçois Camille Viéville. Bonjour Camille, comment allez-vous ?
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Vous êtes auteur d'une monographie sur l'artiste qui est parue en 2011, préfacée par le fameux Jean Clerc, et vous publiez régulièrement des textes sur l'art contemporain, mais j'ai l'impression que vous avez passé du temps sur Baltus.
Oui, j'ai consacré ma thèse à Baltus, « Baltus et le portrait », qui a ensuite, sous une forme modifiée, donné lieu au livre que vous mentionnez. Et j'ai passé en effet de nombreuses années.
Et maintenant, vous préparez de nouveaux livres, j'imagine, mais vous avez publié depuis, en tout cas, deux livres qui étaient assez particuliers, « Le portrait nu, figurer le corps ».
Oui.
Et qui est un livre qui traverse l'histoire de l'art, puisqu'on est du 15e, grosso modo, jusqu'à nos jours, non, à peu près.
C'est ça.
C'est ça. Et vous avez fait avec Laure Adler, « Les femmes artistes sont dangereuses ».
Absolument.
Alors Camille, nous avons avec nous Michiko Kono. Bonjour Michiko.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Alors vous êtes conservatrice dans l'une des plus prestigieuses institutions du monde, la Fondation Beyler. Donc bravo. Et vous avez été co-commissaire avec Raphaël Bouvier de cette exposition Baltus. Et qu'est-ce que vous pensez lorsque tout à l'heure j'ai dit ou j'ai cité ce que dit Baltus, c'est-à-dire qu'il essaye d'explorer la totalité de l'humain sans aucune hypocrisie. Vous pensez que ça correspond à ce que vous avez voulu exprimer dans l'exposition ou au contraire que c'est plutôt une peinture de charme, de poésie facile et une vision édénique du paradis féminin?
Ce qui est très intéressant à observer dans l'œuvre de Baltus, c'est de voir les multiples facettes que présentent ces peintures. Et vu sous cet angle, ça correspond effectivement à la description qu'il fait de son art.
Alors oui, vous voulez dire cette vision féminine ou cette vision au contraire un petit peu exploratrice?
La vision exploratrice de différents aspects qui concernent l'homme en général, son évolution, son rapport avec d'autres personnes, son âge, le fait de vieillir, le passage d'un état à un autre.
Comment ça se fait qu'il ait fait si peu de tableaux? 300 tableaux dans une vie longue?
Et il était connu pour avoir besoin de beaucoup de temps pour travailler. Son rapport au temps était très particulier et également intéressant à étudier.
Parce que certains tableaux ont été faits pendant des périodes de 10 ans, par exemple.
Exactement. Surtout les dernières œuvres, il avait besoin de beaucoup plus de temps, arrivé à un certain âge pour travailler, pour finir les œuvres. D'ailleurs, la dernière œuvre qu'il a achevée, qui porte le titre « Le chat au miroir », il lui a fallu plus de 5 ans pour la terminer.
J'ai lu qu'il commençait toujours, avant d'entreprendre son tableau, il commençait toujours par la prière.
C'est ce que j'ai lu aussi, mais il avait une profonde croyance religieuse qu'il exprimait assez régulièrement dans des interviews.
Alors, c'est étrange parce que, au fond, peut-être que ça n'est pas contradictoire, mais il y a une tension entre cette personne extrêmement recueillie et le caractère transgressif de ses œuvres.
Oui, alors je ne sais pas s'il était empreint d'une telle religiosité dans ses années de jeunesse. Je parle des années d'avant-guerre, qui sont les années où il se montre le plus transgressif dans son travail. Donc cette tension, je ne sais pas si elle est si importante que ça.
Vous voulez dire qu'elle caractérise une période. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire dans la légende de Balthus. La première légende, c'est qu'il est né le 29 février, donc il n'a pas eu de chance. On lui faisait un anniversaire tous les 4 ans seulement. C'est pas terrible.
Surtout pour un enfant.
Mais enfant, c'était un génie précoce, puisque son premier recueil de dessins a été publié quand il avait quel âge ?
Une douzaine d'années.
Mmh. Et un jeune préfacier inconnu ?
Le soutien de Rainer Maria Rilke, rien que lui.
Quand même, à 12 ans, avoir un livre publié par Rilke avec une préface de Rilke, c'est extraordinaire.
Ouais. Mais il baignait dans tout ce milieu culturel, intellectuel, grâce à ses parents. Son père était historien d'art, sa mère était artiste. Ils étaient entourés de tout ce milieu.
Alors, j'adore le prénom de sa mère, vous pouvez nous le rappeler ?
Elle se faisait appeler Baladine.
Baladine, c'est pas son vrai prénom ?
Elle s'appelait Else, son vrai prénom était Else, mais elle se faisait appeler Baladine.
Donc son père était peintre, mais il vivait dans un milieu incroyablement, d'abord le milieu de l'européen intellectuel de l'époque, et sur l'accompagnement de Balthus, c'était déjà des grands artistes, non ?
Absolument.
Par exemple,
il y avait Pierre Bonnard qui faisait partie des amis de la famille. Et c'est d'ailleurs Pierre Bonnard aussi qui l'a soutenu dans son désir de devenir artiste et qui lui aurait donné le conseil de ne pas fréquenter les académies, de plutôt aller dans le Louvre copier les grands maîtres.
Ça, c'est vers quelle période ?
C'était dans les années 20, au début des années 20, lorsque Balthus revient à Paris après la Première Guerre mondiale et un séjour prolongé en Suisse. Il revient en 1924 à Paris et c'est là qu'il commence à aller au Louvre régulièrement et s'intéresse en particulier à Poussin.
Qu'on lui avait recommandé, je crois que c'est Maurice Denis qui lui a dit « Essaye donc Poussin ». Hein. Bon, pas mal comme environnement pour commencer. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe, Camille, c'est il a toujours été entouré de gens exceptionnels.
Oui. Alors, je crois que c'était aussi, j'ai l'impression que c'était aussi une autre époque, mais c'est vrai qu'il a grandi dans ce milieu très Middle Europa, qui a été très bien décrit par Jean Clerc, avec des influences multiples. Il était, pour lui, Rilke était véritablement une figure paternelle. Et ensuite, en effet, à partir de 1924, quand il revient à Paris, il fréquente beaucoup Gide, qui s'occupe de lui et de son frère. Il fréquente bientôt Pierre-Jean Jouve, grand écrivain. Et puis ensuite, jeune adulte, il va se lier très vite avec Artaud, Derain, autant de figures importantes de l'art et de la littérature d'avant-guerre.
Alors, il y a un petit nœud qui se passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michiko. Il y a un nœud familial entre ou amical, vous allez nous le dire, où se croisent des personnalités comme André Masson, c'est normal, Jacques Lacan, Georges Bataille. Ça donne une connotation très très particulière à son travail.
Absolument. C'est certainement ce qui a également encouragé Balthus à réaliser dans le contexte de sa première exposition monographique de 1934 des œuvres qui ont cette touche très très prononcée, cette touche sexuelle très prononcée, et cet intérêt pour la psychanalyse venait certainement de ce milieu qu'il fréquentait.
Alors, c'est un intérêt pour la psychanalyse, mais qu'il a rapidement dit « mais non, ça ne m'intéresse pas du tout », alors qu'il a été entouré de recherches. Même Pierre-Jean Jouve faisait partie de ces personnes très intéressées par ces questions. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite un texte de quelqu'un qu'il qualifie, détrompez-moi, presque comme son double. Je pense à... Mm-hmm. À qui est-ce que je pense ?
Artaud, Antonin Artaud.
Ouais. C'est drôle cette passion pour le double qu'il semble avoir, Balthus. Vous ne trouvez pas que c'est un thème ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui qualifie aussi un petit peu son œuvre, ce rapport avec soi-même qui est cette ambiguïté. En fait, c'est une sorte d'ambiguïté qui poursuit dans son œuvre. L'en face et l'autre.
Est-ce que ça n'est pas les deux faces de l'être à la fois diable et ange?
Tout à fait.
On est toujours sur cette l'âme difficile. Alors, écoutons, on est vers quelle année? C'est la première exposition, c'est la préface de la première exposition Café Artaud, la préface Café Artaud pour Balthus.
Balthus, la première exposition monographique, c'était en 1934.
Eh bien, donc c'est un texte de cette époque-là. Écoutons Antonin Artaud.
Je ne sais pas pourquoi la peinture de Balthus sent ainsi la peste, la tempête, les épidémies, mais elle ramène au jour quelque chose d'une époque électrique de l'histoire, un de ces points où le drame se noue, quelque chose d'un de ces creux atmosphériques appelés le poteau noir, et où le navire qui avance est comme but, et il n'y a rien. Les paysages sont inerte et calme. Les personnages sont ceux d'un grand drame qui couve, mais surpris dans les côtés les plus anecdotiques de leur vie. Ligeia, Morella et Leonora, Bérénice devant leur table de toilette, Lady Macbeth se curant les ongles avec son tout proche hoquet sanglant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce peintre, Balthus, a quelque chose de plus que la peinture à dire, et que ce quelque chose, par-dessus sa peinture si terriblement stricte, rigide, volontaire, fidèle, exacte, scrupuleuse, méticuleuse et honnête, pue la tombe, les catacombes, l'orbituaire, l'antique ossuaire, le cercueil. De combien de cadavres tombés des limbes avant d'être nés, de corps de vierges non utilisés, les nus de Balthus sont-ils faits? Rien d'obscène en eux, mais un malaise particulier. On ne peint pas avec un vérisme si poussé des nus surpris dans des attitudes aussi curieusement instantanées pour les abandonner là, au fond d'une toile, devant laquelle combien de perdus encore défileront avant... Avant quoi? J'aurais presque envie de dire, si je ne craignais pas l'enflure, l'emphase, avant l'heure du jugement. Quoique peut-être encore Balthus ne veuille pas aller aussi loin. Et pourtant, le grand problème, il le frôle.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et nous venons d'entendre un texte d'Artaud sur Balthus parce que nous explorons en ce moment le travail de Balthus avec Michiko Kono, qui est la co-commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Fondation Baylor, et Camille Viéville, qui a écrit un livre en 2012 sur les portraits de Balthus, mais qui va plus loin que les portraits. Peut-être, Camille, vous pourriez nous dire ce que vous pensez de cette phrase et qui dit... Cela veut dire que ce peintre Balthus, c'est Artaud qui parle, a quelque chose de plus que la peinture à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire en peignant de plus que ce que la peinture a à dire?
Je pense que Balthus, particulièrement à cette époque, donc dans les années 30, regarde l'histoire de la peinture, depuis les primitifs italiens jusqu'au XIXe siècle. Et ça lui permet d'exprimer le monde, d'exprimer le monde. Et la littérature vient aussi nourrir très fortement son approche. Et ce qui est intéressant avec Artaud, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du double, c'est que quand Balthus et Artaud se sont rencontrés en 1932 à la terrasse d'un café, ils ont été l'un et l'autre saisis par leur ressemblance physique.
Et à la fin de la vie de Balthus, quand on voit les photos de Balthus vieux, on voit le corps comme ça, émacié d'Artaud malade. Hein. Vous l'avez ressenti, Michiko?
Oui, tout à fait. C'est vraiment une ressemblance assez frappante. Artaud a également donné une autre définition qui correspond bien à ce rapport très proche que Baltus avait finalement, malgré cette image d'artiste qui représente la beauté, l'innocence de la jeune fille. Artaud avait dit en 47 qu'un artiste mettait toujours toutes ses tripes, toute sa salive, tout son sperme, toute sa noirceur dans ses toiles. Et quelque part, c'est ce qui correspond bien à ce que faisait Baltus finalement.
Dans ses premières années, en fait.
Dans ses premières années.
C'est curieux parce qu'il commence après cette petit épisode dont on parlait, le livre sur la perte du chat dont on parlait tout à l'heure et qui avait été préfacé par Rilke. Il commence donc, vous le rappeliez, par aller à pied voir Piero della Francesca, qui était un artiste peu considéré à l'époque. On peut dire que les grands travaux sur Piero della Francesca sont après cette période-là. On est au milieu des années 20. Mm-hmm. Et Piero est l'artiste de la Renaissance, très mathématique, qui va l'accompagner toute sa vie.
Absolument. Cette précision dans la composition de ces tableaux, c'est quelque chose que Baltus va soigner jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il avait besoin de beaucoup de temps. Ce qu'on disait tout à l'heure, le temps qu'il lui fallait pour finaliser une œuvre, ça lui venait certainement de ses arts, de ses grands maîtres de la Renaissance.
Et quand il va faire ses premières images, les premiers tableaux, je pense à un étrange tableau qui s'appelle le Bilboquet. Vous avez ce tableau en tête ?
Mm-hmm. Dans l'exposition.
Il est dans votre exposition. Pourriez-vous nous rappeler un petit peu comment il est composé ? Parce qu'il a l'air d'être composé avec un plan quasiment géométrique.
Mm-hmm. C'est un double portrait de Pierre et Betty Léris. Un couple d'amis avec qui Baltus avait des rapports très proches, avec qui il a vécu pendant un certain temps, il a partagé le même appartement. Et on voit deux personnages qui ne semblent pas avoir, qui semblent être renfermés sur eux-mêmes finalement, comme c'est très souvent le cas dans la représentation des personnages chez Baltus. Pierre Léris est assis dans un fauteuil, il est en train de fumer une pipe, il a le regard dirigé vers le sol, il a l'air concentré en pleine réflexion, ou alors peut-être qu'il s'ennuie. Et debout, à côté de lui, il y a son épouse, Betty Léris, qui tient un bilboquet dans sa main. Et ce qui est très frappant dans cette œuvre, c'est que c'est... peut-être la toute première œuvre dans laquelle on sent ce moment de temps figé de manière très, très visible.
C'est intéressant, vous parlez du temps parce que la boule de bilboquet est en l'air, l'acte n'a pas encore lieu, on imagine tout de suite tout l'ensemble des coordonnées sexuelles de la totalité de la composition, mais le temps donne l'impression d'être parfois le sujet et parfois le sujet de la lumière elle-même dans son travail.
Tout à fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de montrer dans notre exposition, que Baltus était bien plus que ce peintre qui montre des jeunes filles adolescentes. L'aspect de la représentation du temps et de l'espace est très important dans son œuvre.
Ça, c'est une question quasiment philosophique.
Oui, qui a occupé beaucoup d'artistes, au demeurant, qui n'est pas unique chez Baltus, mais pour laquelle il a trouvé des moyens très propres à lui et très intéressants à étudier. Pour l'exprimer.
Vous vous souvenez de ce tableau, Camille ?
Oui, et ce qui est étonnant, c'est que la ficelle du bilboquet que tient Betty Léris prend la forme du crâne de Pierre Léris qui est à ses côtés.
Il dessine exactement la silhouette du crâne et de la calvitie naissante.
Il y a vraiment, compte tenu du sous-entendu sexuel du jeu du bilboquet, la réunion d'Eros et Thanatos dans ce double portrait.
Vous voulez dire que c'est un crâne, en fait.
C'est ça,
c'est pas un crâne. C'est pas le crâne de Léris, c'est un crâne voilà. Au sens de la vanité.
Exactement. Et je pense aussi que le Baltus, qui était donc, comme on le disait, un peintre de la lenteur, il y a une forme de rencontre entre le sujet de sa peinture, la suspension du temps, et cette lenteur dont il avait besoin pour peindre.
Alors, ce thème, évidemment, de la jeune femme et la mort, ou la jeune femme et la pulsion, ou l'homme, les pulsions de l'homme, qui sont pas seulement des pulsions érotiques, qui sont parfois des pulsions, peut-être que c'est la même, des pulsions mortelles, des pulsions d'assassinat, hein, on a l'impression qu'il y a ça aussi dans le travail, non?
Dans certaines œuvres, oui. Balthus a toujours représenté les femmes de manière très, très sûre d'elles-mêmes, presque dans des poses victorieuses dans certains cas.
Menacée parfois aussi.
Mais il y a certaines œuvres, effectivement, où il y a une menace qui est palpable, qui est visible et qui est transmise par des petits détails, parfois un couteau planté dans une miche de pain, parfois un personnage masculin qu'on voit de dos, donc on comprend pas très bien la présence, et qui implique un sentiment de malaise, donc une espèce de menace finalement.
Alors, il y a un livre qui semble l'avoir fasciné, c'est Léo de Hurlevent, et c'est étrange, hein, ce livre de Bronte, et donc qui est un livre extraordinairement romantique et noir, etc. Il y a travaillé pendant longtemps, et j'étais assez impressionné de voir que les dessins qu'il en a fait, une vingtaine, dont je crois qu'il y en a une quinzaine de publiés, donnent l'impression d'être un programme sur lequel il va s'appuyer pendant de nombreuses années.
Oui, son travail sur Léo d'Hurlevent au début des années 30 fonctionne un peu comme une matrice pour l'ensemble de son œuvre. En fait, on retrouve des éléments d'Léo d'Hurlevent jusque dans les tableaux des années 80. Il s'est d'abord très fort identifié à l'histoire des deux héros, Heathcliff, un jeune orphelin recueilli par le père de Cathy, et ces deux enfants vont tomber amoureux, et puis la vie les séparera. Et Balthus s'est très fort identifié au personnage d'Heathcliff dans les années 30. Et il en fait, il fait de Heathcliff un autre double, à peu près à la même époque qu'Arto. Il donne d'ailleurs ses traits au personnage d'Heathcliff dans les illustrations qu'il en fait. Par ailleurs, ce qui est intéressant avec ces illustrations, c'est que à cette époque, pour lui, le dessin est utilisé de manière préparatoire, d'ordinaire. Et avec les dessins pour Léo d'Hurlevent, il en fait une œuvre fini. Et donc, comme je le disais, matriciel, qui va devenir vraiment, en effet, un programme pour son œuvre, particulièrement des années 30, mais jusqu'à la fin de sa vie.
Alors, vous en parliez, Michiko, là aussi, ça a été un travail préparatoire lent, puisque je crois que la série des Hauts de Hurlevent, ça a duré presque un an, de faire ces dessins, qui donnent l'impression d'être rapides et très pulsionnels, pourtant.
Oui, et finalement, il n'y a que la moitié qui a été présentée au public dans une exposition à Londres.
Ce qui m'intéresse dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le bilboquet, avec ce jeu étrange, enfin pas étrange, banal à l'époque, on se souvient par exemple qu'en 1910, quelque chose qui est un proto-ready-made de Marcel Duchamp est un bilboquet, donc c'est assez curieux de voir c'est 1911 d'ailleurs exactement, je crois. Mais il y a peut-être là-dedans une relation avec des objets à fonctionnement symbolique qu'on retrouvera peut-être dans le surréalisme presque simultanément. Je pense par exemple à la fameuse boule de Giacometti.
Oui.
Il y a une ressemblance.
Balthus fréquentait le milieu des surréalistes, comme le faisait d'ailleurs Giacometti aussi. Et aussi bien Giacometti que Balthus ont toujours voulu garder leur distance avec ces artistes, avec ce groupe d'artistes. Et en même temps, on sent que le surréalisme a quand même joué un rôle non négligeable dans l'œuvre de Balthus. Il y a certaines œuvres qui ont été réalisées bien plus tard, dans la deuxième moitié des années 40, par exemple, où on a l'impression de retrouver certains éléments qui font penser au surréalisme. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que Giacometti et Balthus ont été très amis jusqu'à la mort de Giacometti. La veuve de Balthus nous racontait qu'elle n'avait jamais vu son mari plonger dans une discussion profonde sur l'art et sur la vie, dans des discussions avec Giacometti.
Autant qu'avait dans des discussions avec Giacometti, vous voulez dire. Oui. Dont il avait une photographie dans son atelier, je crois, n'est-ce pas, Camille? Et je pense que il y a quelque chose qui les rapproche, c'est peut-être une certitude de l'importance du visage et de la représentation.
Oui, c'est vrai que Giacometti et Balthus commencent à se fréquenter au milieu des années 30, à un moment où Giacometti s'éloigne justement du surréalisme et revient de manière très visible à la question de la figure et à son saisissement dans les œuvres d'art. Et l'un et l'autre, en effet, se sont beaucoup interrogés sur ce rapport à la figure, même si les réponses qu'ils y apportent sont très différentes, bien sûr, chez l'un et chez l'autre. Mais...
Alors, ce moment de cruauté érotique que l'on a chez Giacometti, d'ailleurs dans le Giacometti surréaliste, comme on l'a chez Balthus, il va trouver une sorte d'apothéose qui a fait beaucoup parler récemment d'ailleurs, mais qui est un tableau de 1934, la leçon de guitare. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous dire pourquoi ce tableau est important ?
C'est une œuvre que Balthus a réalisée pour justement cette première exposition monographique que le galeriste Pierre Loeb lui a proposée en avril 1934 dans sa galerie. Et Balthus, en préparation de cette exposition, donc le premier, un grand moment dans sa carrière naissante d'artiste, Balthus s'exprimait dans des lettres en disant ce qu'il voulait, c'était passer par la provocation, puisque faire parler de lui nécessitait le scandale et la provocation. Et cette leçon de guitare a certainement été le facteur principal de ce scandale qu'a soulevé sa première exposition, puisqu'on y voit une femme adulte avec un sein dévoilé, et sur ses genoux est allongée une jeune fille dont la partie inférieure du corps est dénudée, et la main gauche de cette femme adulte est dans l'entrejambe de la jeune fille. Cette œuvre a d'ailleurs aussi une sorte de charisme parce qu'elle a été très rarement montrée au public. Elle a été exposée 3 fois en tout, une fois donc dans cette première exposition de 1934, une deuxième fois en 1977 à la galerie de Pierre Matisse à New York, une troisième fois dans la grande rétrospective organisée par Jean Clerc à Venise, au Palazzo Grassi. Et Balthus lui-même, pendant toute durant sa vie, il prenait en quelque sorte ses distances par rapport à cette œuvre, qu'il qualifiait presque d'une erreur de jeunesse. Et les propriétaires actuels de cette œuvre semblent perpétuer ce souhait de Balthus de ne pas présenter cette œuvre au public.
Alors écoutons ce que disait Balthus. Il écrit à sa femme à l'époque, et nous sommes en 1933. Écoutons sa lettre. Il évoque ce tableau.
Je prépare une nouvelle toile, une toile plutôt féroce. Dois-je oser t'en parler, si je ne peux pas t'en parler à toi? C'est une scène érotique, mais comprends bien, cela n'a rien de rigolo, rien de ces petites infamies usuelles que l'on montre clandestinement en se poussant du coude. Non, je veux déclamer au grand jour, avec sincérité et émotion, tout le tragique palpitant d'un drame de la chair, proclamer à grands cris les lois inébranlables de l'instinct, revenir ainsi au contenu passionné d'un art, mort aux hypocrites. Ce tableau représente une leçon de guitare. Une jeune femme a donné une leçon de guitare à une petite fille, après quoi elle continue à jouer de la guitare sur la petite fille. Après avoir fait vibrer les cordes de l'instrument, elle fait vibrer un corps.
C'est étrange, nous écoutons à l'instant donc Balthus dans notre émission « L'art et la matière » et nous sommes en train de commenter ce tableau du début des années 30 et on le regardait ensemble avec vous, Michiko, avec vous, Camille, et il y a comme le souvenir, un petit peu comme on l'avait tout à l'heure dans le bilboquet avec le souvenir des joueurs de cartes de Cézanne, on a comme le souvenir d'une composition ancienne.
Oui, bien sûr. Balthus, comme souvent, fait référence à l'histoire de la peinture. Ici, il fait référence à la célèbre Pietà de Villeneuve-les-Avignon d'Enguerrand Carton, qui montre donc le Christ allongé sur les genoux de la Vierge.
Ça rend pas la scène encore plus transgressive?
Bien sûr, oui. La part de provocation est d'autant plus forte. On y a vu aussi une référence à un guitariste de Manet qui joue de la guitare du mauvais côté, à l'instar de cette professeure de guitare qui joue de la guitare sur le corps de cette fillette dans le mauvais sens. Et il y a comme une tension entre les lignes du papier peint à l'arrière-plan, cette rigueur de la composition propre à Baltus et une sorte de dérèglement moral mis en scène ici.
Le tableau a suscité des réactions particulières dans le public à cette époque, Michiko ou...
C'est le moins qu'on puisse dire, puisque cette première exposition de Baltus a provoqué le scandale qu'il souhaitait obtenir. Les critiques ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme d'un côté et beaucoup de refus sans cette présentation. Et d'ailleurs, pour Baltus, d'une part, il avait obtenu ce qu'il voulait, mais d'autre part, cette première exposition était un échec commercial total, ce qui l'a plongé dans une crise profonde.
Alors, pourtant, il a répété l'affaire. Il y a un autre tableau que je trouve absolument extraordinaire, où l'on voit une jeune femme, la cuisse levée, debout, et un tableau qui a appartenu à Pierre-Jean Jouve. Mm-hmm. Ça vous dit quelque chose, Michiko ?
Alice dans le miroir.
Exactement.
Qui est dans la collection du Centre Pompidou, d'ailleurs, donc que les Parisiens peuvent voir à tout moment.
Vous l'avez ou pas ?
Non.
Dans l'exposition, vous ne l'avez pas montré ?
Non, justement, le Centre Pompidou voulait la garder pour sa présentation de la collection, donc elle est à voir en ce moment.
Oui. C'est un tableau étrange parce que c'est un tableau, Michiko, dites-moi pourquoi d'ailleurs elle s'appelle comme ça, parce qu'on ne voit pas de miroir.
En fait, le miroir évoque le roman de Lewis Carroll où il est question de cette Alice au pays des merveilles, et le titre original de ce roman ou de ce récit est De l'autre côté du miroir. Donc il y a déjà cette idée de passage qui est tellement importante chez Baltus, le passage de l'état d'éveil à l'état de rêve. Mais également ce passage de l'innocence d'un enfant à un état un peu plus adulte, un peu plus mature. Et donc Alice est représentée ici de manière assez étrange, puisque ce qu'on voit, c'est Betty Leris, dont il était question tout à l'heure, donc une femme adulte avec une poitrine très prononcée et avec les parties intimes visibles sous le haut qu'elle porte, qui est relativement court. Et finalement, grâce au titre, on s'aperçoit que cette Alice en question se tient devant un miroir et que finalement, le spectateur se trouve dans une position de voyeurisme, finalement.
C'est un tableau étrange que Pierre-Jean Jouve, donc le grand poète, le grand écrivain, a gardé, le grand ami de Baltus, a gardé près de lui toute sa vie, je crois. Il a toujours été près de son lit. Je me souviens avoir vu des photographies. Camille, non, vous vous souvenez
oui,
de ça?
Oui, c'est une œuvre qui a beaucoup marqué Pierre-Jean Jouve, qui lui a inspiré un très beau texte. Et il l'avait en effet placée dans sa chambre, rue de Tournon, et elle veillait sur son sommeil, disait-il.
Alors écoutons donc Pierre-Jean Jouve, nous sommes en 1960, c'est dans un recueil qui s'appelle Belle prose.
Le tableau, à cette période de ma vie, se trouvait près de mon lit, au fond d'une chambre en boiserie. Le grand tableau d'un jeune maître qui effrayait mes visiteurs. Imaginez une jeune femme aux yeux blancs, vêtue d'une courte chemise, qui peigne sa chevelure d'une main ferme, tandis que levant haut une de ses jambes sur une chaise vulgaire, elle démontre bien ostensiblement son sexe de femme. Cette étrange compagne était naturellement celle de mes nuits. J'entends qu'elle assistait à mon sommeil et par là pouvait se glisser à l'intérieur. Non, son sein gauche trop lourd et ses cuisses presque masculines ne faisaient pas naître les obscurs désirs enfant du passé que peut-être elle eût éveillé si elle avait été tout entière, mieux accordée à ses deux souliers bleus portés sur la peau. Non. Ce qui me séduisait était le morceau de peinture d'une si exacte précision, d'une charnalité si intense que je considérais Alice comme ma compagne.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de parler d'un des plus célèbres artistes du XXe siècle, un artiste qui nous divise parfois, Baltus. Et je suis pour en parler avec Michiko Kono, qui est l'une des commissaires de l'exposition qui se trouve en ce moment à la Fondation Beyeler à Bâle, et avec Camille Viéville, qui a écrit un très beau livre sur les portraits de Baltus, et qui d'ailleurs dépasse la question des portraits, puisque vous parlez de l'ensemble des personnages qui sont autour de sa vie. Et nous entendions Pierre-Jean Jouve parler de ce tableau, très étrange, Alice derrière le miroir, et qui est un tableau lui aussi très provoquant. Et un autre tableau qui est dans votre exposition, je crois, et qui est un des tableaux les plus célèbres et les plus bizarres, je dois dire, dans le climat qu'il produit de Baltus, c'est La Rue. C'est un tableau de quelle année ? Il arrive quand dans la carrière de Baltus ?
Alors Baltus l'a réalisé au début des années 30, en 32 je crois, et l'a montré, il a également été montré dans cette première exposition de 1934 et a probablement aussi participé au scandale qu'a provoqué cette exposition. Puisque
il y a quelque chose de scandaleux dans ce tableau ?
Il y avait quelque chose de scandaleux. Baltus l'a repris 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard. C'est là où on voit la facilité avec laquelle il corrigeait à la demande des collectionneurs à qui appartenaient les œuvres certains détails de ces tableaux. En soi, l'œuvre est mystérieuse, mais pas particulièrement choquante. On voit un coin de rue à Paris, comme une sorte de coulisse de théâtre dans lesquelles Baltus a placé des figures qui semblent être des figures comme sorties d'un rêve, des figures assez énigmatiques, assez bizarres. Il y a par exemple un enfant, ce qui semble être un enfant qui est porté par une femme dans ses bras, mais cet enfant porte bizarrement les traits d'un homme adulte.
Finalement. Oui, c'est un enfant bizarre, effectivement. C'est un adulte, il n'y a pas de doute, mais petit.
Mm-hmm. Il y a un autre personnage qui est presque grotesque, au premier plan aussi, plutôt dans la moitié gauche, qui semble être sorti d'un livre pour enfants, une illustration pour enfants. Mais surtout, la seule interaction véritable qui a lieu dans ce tableau se trouve tout à fait à gauche, où une jeune fille qui a été mise en relation avec Alice, cette Alice au Pays des Merveilles qui revient ici également. Et cette jeune fille se trouve dans une situation de presque d'agression physique. En tout cas, on ne comprend pas très bien ce qui se passe puisqu'il y a un jeune homme qui l'enlace par derrière, qui la tient fermement dans ses bras, et sa main, une de ses mains est placée dans son entrejambe. Et au départ, la version première de cette œuvre montrait effectivement la main véritablement posée sur le sexe de cette jeune fille. Donc il s'agissait véritablement d'une agression sexuelle.
Il l'a corrigé 20 ans plus tard. Mais il y a quelque chose de très curieux dans ce tableau. C'est un très grand tableau. Il fait 2,50 m de large. Vous imaginez que cette rue, on est presque à l'intérieur quand on la voit. Et on a en face de nous un drôle d'enfant qui nous regarde de face, Camille Viéville. Vous le voyez, cet enfant ?
Oui, une figure assez énigmatique. Ce qui est intéressant avec Baltus, c'est que c'est un artiste qui s'intéresse, qui se passionne même pour la tradition, qui revendique un rapport à la tradition et qui pour autant n'est pas académique. Et ce tableau le montre bien avec ces figures qui ressemblent à des automates, rapprochent Baltus de tout un imaginaire contemporain qu'on a évoqué tout à l'heure autour de, par exemple, du surréalisme ou de avant ça de Dada, et cette espèce d'ambiance de rêve étrange, d'inquiétante étrangeté est propre à son travail de l'entre-deux-guerres.
Alors, vous avez raison, on parlait d'inquiétante étrangeté, c'est encore un thème pris à Freud, on peut dire, d'une certaine façon, et il y a cette personne qui joue du... Il y a une sorte d'enfant qui joue de la balle avec une raquette. On dirait un tableau du Novecento ou un tableau de Carlo Cara. Les mélanges de références, un personnage qui a une planche sur le dos qui fait penser à un portement de croix, un autre qui fait penser à Pirolet Francesca, un autre qui fait penser à Carlo Cara. Comme toujours, toutes les époques de la peinture habitent sa peinture. Et l'ensemble des personnages, c'est un tableau de Seurat, non ? C'est un monde de cartes à jouer sans ombre. Qu'est-ce que vous en pensez, Michiko ?
Balthus a certainement, c'est certainement une qualité des œuvres de Balthus de prendre, de se servir dans l'histoire de l'art, et c'est là où on voit que c'est un autodidacte. C'est certainement un indice qui est très révélateur. Il se sert dans l'histoire de l'art et cite tous ces artistes qui l'ont tellement intéressé, que ce soit les maîtres de la Renaissance, que ce soit Fuseli, que ce soit Delacroix, Courbet, qui a joué un rôle très important pour lui, Cézanne. Et il se cite aussi lui-même, ce que font d'autres artistes aussi, mais il le fait vraiment de manière très très méthodique. Il reprend des motifs qu'il avait déjà étudiés dans les années 20. Il les reprend 20 ans, 30 ans plus tard et les modifie légèrement et en fait toute une série.
Vous ne trouvez pas que ça a un côté jeu de piste? C'est-à-dire que il y a des citations assez directes, Camille, vous en conviendrez, de Pierrot ou de Seurat, on en parlait, ou de Cara et d'autres, mais on ne peut pas reconnaître la citation si on ne fait pas un vrai travail d'enquête, parce qu'il transforme, comme on le voyait entre le portrait du joueur de cartes de Cézanne et le portrait de Léris tout à l'heure, au Bilboquet, avant de retrouver la source, il y a un travail de dissimulation presque, policière.
Oui. Et où il mêle également non seulement l'histoire de l'art, mais il y ajoute également un aspect de culture populaire en utilisant par exemple des illustrations de livres pour enfants, en particulier les illustrations de Pierre Lébouriffé, qui est très connu dans les pays germanophones, Taschtrouvelpeter, des histoires très moralisatrices qui font en fait très peur aux enfants et qui sont pas du tout...
Mais qu'il a eu peur, vous pensez que c'est des souvenirs traumatisés
En tout cas, il a été en contact avec ses histoires, puisqu'il a passé une partie de son enfance à Berlin pendant la Première Guerre mondiale, et c'est là où il a découvert ces histoires du Strouvelpeter de Pierre Lébouriffé. Et il en intègre certains éléments beaucoup plus tard dans ses œuvres. Il y a aussi l'art populaire, les représentations de Joseph Reinhardt, par exemple, un peintre suisse dont des œuvres sont exposées au musée historique de Berne, que Balthus a visité à plusieurs reprises dans sa jeunesse. Et dans ces représentations de Joseph Reinhardt, sont montrés des costumes traditionnels suisses. Et là aussi, on croit retrouver des éléments de Joseph Reinhardt dans certaines toiles de Balthus.
Alors, je crois que la découverte de cette toile dont on parle, la fameuse rue de 1933, ça a été l'occasion de la rencontre avec Loeb, ou je me trompe, avec le grand marchand Pierre Loeb.
Loeb est venu lui rendre visite dans son atelier, et c'est comme ça que cette idée de faire la première exposition monographique est née.
Alors Loeb décrit le tableau, on va écouter ce qu'il en dit, mais c'est vrai qu'à travers Loeb, il y a Picasso qui va apparaître aussi, et un autre monde va surgir comme ça dans l'univers balthusien. Écoutons ce qu'écrit Pierre Loeb, c'est un souvenir de sa visite à l'atelier de Balthus, la rue.
Dans une chaude lumière blonde qui baigne la composition, des personnages circulent. Je ne sais où se passe la scène. Mais cette rue paraît être celle qui conduit de la place Fürstenberg, où habitait l'artiste, à la rue Jacob. Les personnages ici sont figés comme ceux de la Grande Jatte, mais dans l'instantané, et non plus dans la pose. Ils ne sont pas non plus saisis en plein mouvement, en pleine action, comme ceux de Degas, mais comme pétrifiés sur place. Ce maçon, tout blanc, est l'axe du tableau. Il le traverse comme un fantôme. Les autres personnages se côtoient, se rencontrent sans se voir. Même les acteurs de cette scène curieuse qui se passe sous les yeux du mitron, dont la pensée est ailleurs, comme l'est celle de cet enfant sans âge qui poursuit ses réflexions intérieures tout en jouant à la balle. Un jeune garçon s'avance, son regard se perd dans un rêve. Le balancement de son bras s'immobilise dans un geste d'automate, tandis que la jeune fille s'écarte inconsciemment pour ne pas briser ce rêve et poursuivre le sien. Une femme s'en va, portant un enfant endormi au sommeil tourmenté. On croit voir quelques songes étranges, dont les acteurs sont des somnambules, et une atmosphère angoissante émane de cette parfaite composition, dont l'équilibre plastique et le rythme s'accordent si parfaitement avec la conception. Déjà, nous ressentions une sensation de trouble, de malaise même devant les regards absents de certains visages de Picasso, d'inquiétude devant ceux figés de Derain, devant ces yeux privés de vie ou hagards vidés de leur expression. Mais ce tableau étonnant pourrait marquer le stade intermédiaire entre l'évasion dans le rêve et le retour par l'étape du somnambulisme à la réalité de demain.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et nous venons d'entendre Pierre Loeb parler du tableau le plus célèbre de Baltus qui se trouve en ce moment à la Fondation Beyeler dans l'exposition que vous lui consacrez, Michiko.
Oui.
Hein, et donc c'est un tableau étrange, mais il y en a d'autres. J'ai entendu dans le commentaire que faisait Pierre Loeb de ce tableau le nom de Picasso. Et il y a un tableau célèbre que possédait Picasso, qui est peut-être le seul tableau d'un artiste vivant qui est rentré dans le musée Picasso à Paris, et qui est un tableau représentant les deux enfants Blanchard, qui sont deux enfants qui, je crois, étaient ses voisins quand il habitait Passage de Rohan, près de Saint-Germain-des-Prés.
Exactement. Il y a très peu d'informations sur ces enfants Blanchard qui sont restés, mais en tout cas, on sait que ce qui est représenté, ce sont Thérèse et Hubert Blanchard, dans des poses très typiques de l'enfance finalement, puisque Hubert s'appuie sur une table et a l'air de s'ennuyer, regarde dans le vide, tandis que sa sœur est à quatre pattes par terre en train de lire un livre, en train de feuilleter un livre. Thérèse a d'ailleurs servi comme modèle pour un nombre relativement important de toiles pour Baltus, puisqu'il y en a une dizaine, une douzaine que Baltus a réalisé. Les premières ont été faites en 1936 et la dernière œuvre date de 39. On ne sait pas exactement dans quelles conditions Baltus a rencontré cette jeune fille, mais on sait qu'elle est née en 1925, donc qu'elle avait 11 ans la première fois que Baltus a travaillé avec elle. Et elle est d'ailleurs le modèle qui a servi pour la réalisation de cette peinture dont il a été beaucoup question ces derniers temps.
Pourquoi ?
Le titre est Thérèse rêvant. C'est une peinture qui date de 1938 et qui se trouve dans la collection du Metropolitan Museum à New York. Et on y voit une jeune fille, les mains derrière la tête, les mains croisées derrière la tête, le visage tourné vers sa droite, les yeux fermés. Et elle est assise dans un fauteuil, les jambes relevées et les genoux écartés.
Et est-ce que c'est pas pour ce tableau qu'il y a eu une pétition pour l'enlever, non ?
C'est une pétition qui a été lancée il y a exactement un an, en novembre 2017. Une New-Yorkaise qui avait été choquée par la vue de ce tableau dans les salles dédiées à la collection du Metropolitan.
Et c'est un tableau d'une beauté absolument merveilleuse, d'une poésie totale. Et j'ai entendu dire qu'il y avait 11 000 signatures pour décrocher ce tableau. Mais où va-t-on ? Quel monde ? C'était totalement décourageant, l'incompréhension du rôle de l'art dans nos vies. C'était désolant.
Il faut dire qu'il faut avoir vu cette œuvre pour pouvoir en juger. C'est certainement un facteur très important. Peut-être que parmi ces 11 000 personnes qui ont soutenu cette pétition, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient vu cette œuvre de leurs propres yeux. Et c'est ce qui est certainement aussi le rôle d'un musée, de laisser au public se forger une opinion soi-même sur une œuvre. C'est compréhensible qu'on soit choqué par ce motif, mais c'est compréhensible aussi qu'on soit charmé par la représentation, par la subtilité de la composition, par le choix des couleurs, par l'agencement, par simplement la beauté de cette jeune fille qui est représentée avec cette posture de confiance en soi, de triomphe en quelque sorte.
Alors, Camille, dites-moi, le tableau qui était chez Picasso, alors avant de reparler de ce tableau Thérèse Révan, le tableau qui était chez Picasso est d'abord un tableau qui est construit presque comme l'autoportrait de Poussin. C'est une série d'orthogonales géométriques d'une précision folle et dans lequel les rapports des deux corps est une combinaison.
Oui, l'arrière-plan est extrêmement géométrisé. D'ailleurs, si on fait abstraction des figures, c'est presque de la peinture abstraite.
Oui, entre le cubisme et l'abstraction,
c'est
presque.
Ça.
Hein. Ouais.
Et comme souvent, les corps ont à rentrer dans cette grille. Il y a des témoignages de modèles de Balthus expliquant que les poses étaient très difficiles à tenir parce que très exigeantes. Il était très méticuleux. Et par ailleurs, la composition de ce tableau qu'a acheté Picasso provient de ces illustrations des Hauts de Hurlevent dont on parlait tout à l'heure. Et il reprend un épisode des Hauts de Hurlevent où on voit Cathy et Heathcliff pour le transposer dans ce double portrait.
Et alors, ce travail sur les combinaisons, on les a beaucoup avec les enfants Blanchard. Vous savez quelque chose de plus, vous, sur ces enfants Blanchard?
Non, on sait très peu de choses. J'ai moi-même fait des recherches pour essayer de retrouver.
Vous n'avez rien trouvé de plus.
Non, on sait très très peu de choses.
J'espère qu'ils ont mérité le don de quelques esquisses parce que ils se sont donnés âme et corps, si je puis dire, donc à la curiosité de Balthus,
oui.
Qui les maintient dans cet entre-deux, entre la pureté de l'enfance et l'angélisme supposé, légèrement pervers de Balthus.
Oui, ce qui est intéressant, je pense, avec cette série de portraits des enfants Blanchard qui n'ont pas tous ce pouvoir sulfureux qu'on prête à Thérèse Révan, c'est qu'il s'intéresse vraiment à une certaine complexité de l'enfance, justement, qui est très éloignée de la vision parfois un peu édulcorée qu'on en a d'un temps de l'innocence. Et au contraire, il souligne, en s'inspirant notamment de tableaux de Géricault, il souligne la gravité de l'enfance.
Ce que vous voulez dire, c'est parce qu'il y a effectivement des portraits de Géricault qui sont très proches de ça, c'est... un visage pensif, c'est comme s'il peignait de la pensée rêveuse plutôt que de peindre un visage. C'est ça que vous voulez dire ?
Sans faire de psychologie, parce que je pense que la psychologie n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup Balthus, mais l'intériorité, par contre, l'intéresse et c'est très prégnant dans cette série de portraits. Et c'est pas étonnant, enfin, quand on voit aussi les portraits de chevaux par Géricault, on retrouve cette même profondeur du regard. Enfin voilà, c'est pas étonnant.
Donc la prunelle complète, comme dit Balthus souvent, du chat, par exemple.
C'est hein, ça donc, aussi, ouais.
qui est souvent un autoportrait, le chat, n'est-ce pas, Michiko?
Une fois de plus, le double.
Une fois de plus, le double. Mais lui, c'est un chat parfois un peu diabolique, quand même. Hein. Il est légèrement luciférien.
Parfois, ça ressemble presque pas à un chat, ça ressemble plus à un tigre qu'il faut dompter. Il y a par exemple cet autoportrait de Balthus où il se représente lui-même en fier dandy et à ses pieds, il y a une espèce d'énorme chat qui semble être son double.
Et parfois, le chat regarde des jeunes femmes avec une gourmandise terrifiante.
D'ailleurs, dans Thérèse Révan, il y a un chat qui a ses pieds et qui est tout sauf innocent.
Ces combinaisons, là, qu'on vient de voir, vous trouvez pas que ça ressemble aussi au tableau de ce fameux artiste Pierre Klossowski?
Oui, alors Pierre Klossowski, qui est
un nom qu'on n'a pas prononcé encore, c'est quand même
donc le frère aîné de Balthus, qui est né en 1905, et qui est écrivain, philosophe, et qui dans les années 50 demande à Balthus d'illustrer ses propres textes. Et Balthus refuse, et ça conduit Pierre Klossowski à commencer à dessiner et à créer cet univers de tableaux vivants, de simulacres, qui est très proche, à certains égards, du travail de Balthus.
Et donc, il y a aussi quelque chose qui est assez frappant chez Balthus et c'est Klossowski qui en font des doubles l'un de l'autre, d'une certaine façon. C'est que l'un est rentré comme moine chez les dominicains, l'autre en est sorti assez rapidement pour préférer peut-être le côté obscur de l'homme. Je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas un côté, une exploration psychique très complexe. Et Balthus, lui, au contraire, est allé vers une religiosité très exacerbée quand il s'est installé en particulier à Rossinières. On a l'impression qu'il a une vie de moine.
C'est vrai et en même temps, c'est assez caractéristique de Baltus de manière générale, puisque dans les années 50, il va se retirer au fin fond de la Bourgogne, dans le Morvan, dans un château, le château de Chassy, où il vit de manière relativement isolée. Après, l'étape suivante, il la vit à Rome, à la Villa Medici, où il est le directeur de l'Académie de France à Rome, et où il vit une vie très mondaine. Et finalement,
l'Académie de France à Rome, la Villa Medici, qui lui voue encore un culte. On restaure les restaurations qu'a fait de sa main Baltus sur les murs, quand il talochait les murs pour obtenir des surfaces, des grains, avec cette obsession de la peinture italienne qu'il a toujours eu.
Et il a certainement redonné sa splendeur à ce palais. Et sa vie à Rossinière, c'est une fois de plus une sorte de retrait dans un petit village des Préalpes vaudoises. Et en même temps, c'est un endroit où il continue en quelque sorte de vivre cette vie très mondaine, puisqu'il y accueille toutes les personnalités illustres de notre époque, aussi bien des chanteurs comme David Bowie ou Bono de U2 que le Dalai Lama. Il était ami avec Philippe Noiret, il était ami avec Fellini. Donc,
il vit une retraite, mais une retraite très sociable au fond, bien qu'il ait été redouté. Il paraît qu'il avait des colères terrifiantes. Ce que je vous propose, c'est que on vient de faire une sorte de premier point de vue comme ça sur l'ensemble de l'œuvre de Baltus et sur la complexité, et je crois que vous l'avez révélé. Je veux d'abord vous en remercier, Michiko Kono. Merci infiniment et bravo pour cette exposition fascinante. Merci. Qui va voyager, je crois.
Qui va être montrée à partir de février à Madrid au Museo Thyssen-Bornemisza.
Donc ceux qui vont la rater peut-être à Bâle, quoi qu'elle soit encore là pendant quelques...
Jusqu'au 1er janvier.
Jusqu'au 1er janvier, vous avez encore le temps pour les vacances de Noël, c'est top. Et Camille Vieville, donc bravo pour le livre que vous avez publié chez Flammarion, que j'ai trouvé formidable. Je vous propose... Est-ce que ça vous conviendrait? J'aimerais bien qu'on écoute un texte de Baltus, c'est dans ses mémoires, et qu'on termine l'émission avec ce texte.
Merci beaucoup.
Écoutons Baltus.
J'ai fait tant d'esquisses et de portraits jusqu'à celui-ci, volontairement scandaleux de la leçon de guitare, que peut se révéler une attitude compulsive et érotomaniaque. Je m'en suis toujours défendu, n'y voyant que des images angéliques et célestes. Mais l'univers de certains de mes amis, d'Artaud à Jouve en passant par Bataille, n'est pas totalement innocent. Ces relations-là ne sont pas fortuites. De là à imaginer une relation entre leur univers et le mien, le pas fut vite franchi. En vérité, je crois plutôt en la dualité profonde des êtres. Mon exigence de travail a quelque chose de religieux, d'ascétique, de janséniste même. Et ma farouche solitude, mon ombrageux dédain, comme disait Jouve, me font penser à l'héritage d'un don Juan habité par l'absolu et l'idéal. Rien de glauque ni de malsain. La part enviée et la part subie seulement. Et puis, lorsque je parle des anges et de la grâce troublante de certaines de mes jeunes filles, je n'oublie pas l'ange le plus éblouissant de lumière, déchu et splendide, Lucifer. Comme Byron, ou comme le héros violent des hauts de Hurlevent, j'aurais cherché dans l'ombre et la lumière les traces de la pure nature.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Michiko Kono, commissaire, et Camille Vieville, essayiste, pour nous parler de l'exposition Baltus qui a lieu en ce moment à la Fondation Beyler à Bâle. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Julien Douminc, lecture des textes Lara Brulle, réalisation Laurent Polleret. Merci Laurent. Et chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.